connaissances que nous n'avions pas, que nous avons acquises en travaillant, la connaissance de toute une série de textes, de références, très largement oubliées. Je pense à ce que monsieur disait à propos de ce livre Autorité bien commun qui nous rappelle qu'il y a en effet énormément de travaux qui ont été faits, de réflexions très souvent oubliées. Et je crois que, bon, si j'avais un argument pour vous convaincre de lire ce livre, ça serait celui, au fond, qui consisterait à dire qu'il est temps, effectivement, de se réapproprier une histoire. C'est l'histoire de la réflexion sur le socialisme, par exemple, au XIXe siècle, ce qui a été le socialisme de l'association, ce qu'ont pu dire à certains moments des gens comme Proudhon, qui a été oublié, etc., etc., ou ce que les juristes latins ont pu dire de la chose commune. Donc, simplement, je vous dis, nous ne savions pas, nous, ces choses-là. Le bénéfice que nous avons tiré du travail que nous avons fait, c'est précisément d'apprendre. Et cela fait partie aussi, puisque nous sommes professeurs l'un et l'autre, je dirais, de notre fonction, pas seulement professionnelle, mais de notre fonction sociale, d'être des passeurs aussi de savoir. Ceci dit, donc, nous n'avons pas tout lu. Et les livres que vous évoquez, je ne les ai pas tous lus. J'ai lu donc Rifkin et Sennett que vous citez. Je voudrais juste m'attacher à la différence entre notre approche et celle de Rifkin, de Jeremy Rifkin, dont on a beaucoup parlé. Lui parle de révolution. De révolution des communs économiques, ou plus exactement des communs numériques. Mais cette expression, cette formule de révolution n'a pas le même sens sous sa plume et sous la nôtre. En effet, notre démarche, comme vous l'avez bien entendu, est une démarche qui vise à une réinstitution de la société, à une refondation institutionnelle de la société, tandis que Rifkin, lui, a une approche, je dirais, plutôt technologique des choses. C'est l'idée selon laquelle les outils numériques transforment très profondément les modes de communication et les modes de production dans la société. Or, ce n'est pas du tout notre approche. Nous pensons que les outils en question peuvent être en effet des moyens formidables de mise en œuvre d'une démocratie différente, de formes de coopération et de coproduction que nous citons, exemple classique de la naissance de l'Internet, du développement du logiciel libre, des grandes encyclopédies comme Wikipédia, et de toutes les formes de wiki, etc., plus de multiples formes de communs qui se produisent, qui se créent, qui s'instituent par ces moyens numériques, mais nous sommes aussi très conscients de l'instrumentalisation qui est faite par le monde capitaliste de ces outillages. Et d'ailleurs, si le capitalisme se transforme effectivement du fait de ces outils, c'est dans un sens qui est celui de la concentration extrême de la richesse. C'est-à-dire qu'au fond, ce à quoi nous assistons, c'est un capitalisme suffisamment intelligent pour avoir compris tout ce qu'il pouvait tirer de la coopération sur les réseaux, de la mise en ligne de multiples écrits, témoignages, photos, etc., pour précisément en retirer des bénéfices considérables. Donc je crois qu'il faut, nous ne sommes absolument pas naïfs, suffisamment naïfs en tout cas, pour adhérer à tout ce discours sur l'économie du share, du partage, l'économie de la collaboration, etc., qui consiste parfois à demander aux gens de louer tout ce qu'ils ont, louer sa voiture, louer son appartement, etc. C'est-à-dire, au fond, à marchandiser à outrance, finalement, tous les domaines de la vie. Et on fait passer ça pour du commun. Non, ça, pour nous, c'est, disons, du faux commun. Parce qu'il y a le vrai commun, c'est le nôtre. Hein. Bon. Le faux commun, c'est le leur.